monde durable. Déjà demain, les territoires face au changement climatique.
Une collection de reportages à la rencontre de celles et ceux qui transforment nos façons d'habiter, de vivre et de faire territoire.
Bonjour à toutes et à tous. Face aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, comment mieux repérer les personnes les plus vulnérables? Nous en parlerons dans quelques minutes avec Frédéric Frénard et Maximilien Stenderson de Réseauville, Pays de Loire et Bretagne. Avec leur outil Adapt Canicule, ils cherchent justement à identifier plus précisément les populations les plus à risque lors de ces épisodes extrêmes. L'objectif, mieux cibler pour mieux protéger. Mais avant cela, direction le quartier Beau Séjour à Nantes. Depuis 2024, l'association Petits Frères des Pauvres a lancé un appel à la solidarité. Elle invite les collectivités et entreprises à se mobiliser en facilitant l'accès de leurs locaux, disposant de salles fraîches, aux personnes âgées. Mathieu Boisse de Radio s'est rendu dans l'une de ces salles rafraîchies sur la route de Vannes.
L'été 2025 a vu le mercure s'affoler partout en Europe. Le constat est clair. À Paris, Bruxelles ou Madrid, le réchauffement est en moyenne deux fois plus rapide que dans le reste du monde, selon le tout récent rapport de l'Institut Copernicus. En France, le seuil des 35 degrés a même été atteint sur une grande majorité du territoire au cours de l'été. Alors, rester chez soi devient parfois impossible, surtout lorsque l'on habite un quartier bétonné. Je suis dans le quartier Beau Séjour. En face de moi, aucun arbre. Seulement un grand boulevard, du goudron, des voitures, le tramway et des immeubles bétonnés.
Bonjour.
Je suis parti à Stéréden sur la route de Vannes à Nantes. Ici, nous sommes dans une résidence où une centaine de seniors résident à l'année. Deux salles climatisées sont ouvertes à toutes et à tous l'été quand la température grimpe. Un refuge temporaire face à la chaleur.
Enchanté.
Enchanté.
On va commencer par celle du fond. Je vous suis.
Donc là, on a une première salle entièrement climatisée où les résidents peuvent se réunir de façon autonome. Donc on a dans cette pièce, on a quand même des canapés, fauteuils pour l'espace convivial avec des journaux. On a une grande bibliothèque comme vous pouvez voir en libre accès. Donc ça marche assez bien. Les résidents prennent les livres qu'ils veulent. Parfois ils en rajoutent quand ils les achètent. Donc il y a vraiment de tout. On a un piano aussi, libre accès. Et la deuxième salle, c'est le grand salon. Donc le grand salon, la salle d'animation, c'est là que se passent principalement toutes les animations que nous proposons au quotidien aux résidents. Donc il y a une grande télé, un grand espace et vous avez un coin cuisine au fond de la pièce. L'avantage de cette pièce-là, c'est qu'elle donne aussi sur le patio. Quand la clim n'est pas en marche le matin, on peut faire faire circuler l'air plus facilement pour rafraîchir la pièce.
D'ici 2060, près d'un tiers de la population de l'Union européenne aura plus de 65 ans, selon la Commission européenne. Face à cette réalité, l'association Les Petits Frères des Pauvres a pris les devants. Depuis 2024, elle porte un dispositif original, l'Oasis Solidaire. Le slogan est simple et direct. Pour nos aînés, faisons de l'ombre à la canicule, soyons une oasis solidaire. Alexis Bourget est chargé de mission sur le programme Lutte contre l'isolement social chez les petits frères des pauvres.
Oasis solidaire, c'est né parce qu'il y avait cette question de se dire on sortait d'une période de canicule dense et puis il y a eu plusieurs moments, en tout cas de canicule ces dernières années. Et donc du coup, c'était de se dire tiens, comment l'association Petits Frères des Pauvres qui lutte contre l'isolement des seniors les plus précaires peut s'investir et investir la société là-dedans. Et donc le fait de se dire que créer un espace où les structures telles que les collectivités, les entreprises peuvent accueillir en leur sein dans des espaces de fraîcheur des personnes âgées, ça nous semblait cohérent pour permettre de créer du lien aussi et d'ouvrir cette lutte contre l'isolement social des seniors auprès du plus grand nombre.
Selon l'évaluation européenne des risques climatiques, le niveau de risque pour la santé humaine liée à la chaleur dans la seconde moitié du siècle est qualifié de catastrophique. Et aujourd'hui, selon Petits Frères des Pauvres, ce sont 19 millions de personnes âgées qui sont en situation de vulnérabilité l'été. Alexis Bourget.
Les personnes âgées, elles sont plus touchées parce qu'elles sont plus fragiles. Il y a la question de pouvoir sortir de chez soi. Comment avoir aussi la question des logements qui n'est pas toujours adaptée. C'est aussi des gens qui peuvent être en situation de précarité plus fortement. Donc du coup, c'est les logements où peut-être on parle de passoires thermiques ou autres parfois. Et bien, du coup, ils vont être moins bien isolés, donc ils vont subir plus la chaleur, comme d'ailleurs le froid l'hiver. Et puis il y a cette question de certains qui sont en difficulté de mobilité, donc qui peuvent avoir des problématiques pour sortir de chez elles ou de se déplacer, d'aller s'hydrater plus souvent, parce que c'est aussi ça l'enjeu. Et puis c'est les moyens aussi de pouvoir faire appel à des gens pour avoir d'autres ressources qui permettent de bien vivre cette chaleur qui, même pour des gens en pleine forme physique, est des fois difficile.
En France, lors de la canicule de 2003, 8 victimes sur 10 avaient plus de 75 ans et l'âge est un facteur déterminant de vulnérabilité face au changement climatique. Leur corps régule moins bien la température, la sensation de soif diminue avec l'âge et certains médicaments ou maladies chroniques peuvent aggraver les effets de la chaleur. Le GIEC est formel sur ce point. En Europe, les personnes âgées figurent parmi les plus exposées aux vagues de chaleur.
Moi, je suis Claire de Souza, je suis l'infirmière coordinatrice de la résidence Terreven. Alors, je pense que les premiers signaux d'alerte, c'est nous, notre ressenti déjà, parce qu'en fait, les signaux d'alerte, comme disait Madame Réminiac, ils ne les ont pas. Ils ne le ressentent pas, ils ont froid, ils continuent de se couvrir, ils n'ont pas leur sensation de soif, donc ils ne boivent pas plus. Donc en fait, c'est nous leur alerte, en fait. C'est notre ressenti à nous, du fait que nous, on va vraiment comprendre que cette journée, elle va être difficile, parce que nous, on va la ressentir très fort, et eux, ils ne vont pas avoir les signes d'alerte. C'est ça la difficulté, je pense, pour la personne âgée.
L'été dernier, il a fait très chaud.
Très chaud. Ah oui, il a fait chaud. Avec le ventilateur, ça, les volets fermés un petit peu, et on ne peut pas faire courant d'air parce que dans les couloirs, il fait encore plus chaud que dans nos appartements.
Dans les couloirs ?
Dans les couloirs, certes.
C'est pénible dans les couloirs.
Il n'y a pas d'aération, il n'y a rien.
Dans l'appartement, vous verrez.
L'Oasis solidaire s'ouvre en priorité aux personnes âgées sans pour autant se fermer aux personnes vulnérables. Il suffit de suivre le petit logo à l'entrée de la résidence avec le palmier. Pour Cécile Réminiac, la directrice, l'idée est de recréer un espace convivial, accueillant et frais.
Ici, à Stéréden, on fait en sorte vraiment que l'établissement soit ouvert sur l'extérieur un maximum. Donc on a des personnes qui habitent le quartier qui viennent s'exercer sur le piano de façon régulière. C'est important pour moi que Stéréden, effectivement, on est une résidence service senior, mais que ça soit aussi un lieu de vie dans le quartier où les résidents, les personnes qui habitent le quartier peuvent venir quand ils le souhaitent. On essaye de vraiment de mettre en place des activités, on crée des événements ouverts sur l'extérieur régulièrement. Donc les personnes qui n'osent pas rentrer dans Stéréden, ils savent qu'à ce moment-là, ils peuvent. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'adhérer à la demande de petit-fils avec Oasis pour permettre aux habitants du quartier, personnes âgées isolées, de pouvoir venir et trouver un moment de répit, un moment de fraîcheur s'ils n'ont pas de climatisation chez eux.
Justement, qu'est-ce qui vous a convaincu dans ce dispositif ?
La simplicité de la mise en place, parce que finalement, nous, on a juste mis le petit logo à l'entrée, et pour les personnes qui connaissent ce dispositif, ils savent qu'on est un lieu ressource.
Il ne fait pas encore très chaud dehors en ce mois d'avril, mais avant de se transformer en un endroit frais, cette pièce vit au quotidien. Et aujourd'hui, c'est un loto qui est organisé dans la résidence.
Le prochain numéro, c'est le 17.
J'ai gagné.
Ah, voilà, je savais que...
Attendez, je vais vérifier quand même. Non, c'est pas rien. Donc nous avons une gagnante. Qu'est-ce que je peux dire ?
Juste, c'est climatisé, là, c'est climatisé. C'est climatisé,
oui, il y a la cuisine qui marche.
Ah, les pièces, oui, mais pas les appartements.
Pas chez nous, non. Ici, et puis le restaurant aussi, oui, c'est vrai.
Les grilles et les pions rangés, il est l'heure du goûter. Léone, jus de fruits à la main, n'aime pas la chaleur.
Moi, je descends ici, parce que j'ai un appartement qui est très très chaud. Ventilateur ou pas, c'est comme si j'en avais pas. Alors je descends ici parce que c'est beaucoup plus frais, ils mettent la climatisation. Alors là, comme ça, c'est mieux, je respire mieux, je suis plus à l'aise.
Paul, 93 ans, lui cherche tous les moyens de se rafraîchir.
Je préfère l'hiver ou à l'été. Hein. Je vous le dis franchement, c'est plus facile de se couvrir et d'avoir chaud que de se découvrir et continuer d'avoir chaud. Mais j'ai des bombes de brume, j'en ai une. Dès que vous vous en servez, c'est froid.
En Europe, tout le monde met la main à la pâte. En Suisse, Genève ouvre gratuitement ses piscines et cinémas aux plus de 75 ans. Les Pays-Bas, quant à eux, ouvrent des cooling centers dans les bibliothèques et centres communautaires. Aujourd'hui, petit frère des pauvres contre 468 oasis solidaires, dont 51 dans les Pays de la Loire. Mais le dispositif instauré il y a 2 ans a ses limites. Alexis Bourget pointe une difficulté majeure, atteindre ceux qui n'osent pas ou ceux qui ne savent pas qu'ils peuvent venir.
Nous, on évalue au fait qu'il y ait 750 000 personnes en situation de mort sociale. La mort sociale, c'est défini chez nous comme la situation où il y a une absence de relation entre les amis, la famille, le voisinage et le tissu associatif. Donc ces gens-là qui peuvent être plus démunis et plus en danger. Les gens ne vont pas venir eux-mêmes si aujourd'hui, ici, là, dans le lieu dans lequel on est, on est résidents solidaires, mais s'il n'y a que nous qui le connaissons, il n'y aura personne. Ce qui est d'ailleurs un axe de progression. C'est vraiment un travail un peu de longue haleine, ou en tout cas d'investissement collectif pour se dire, bah, voilà, on va communiquer auprès des commerçants, on va passer peut-être dans les immeubles à côté. Enfin, il y a des trucs à réinventer, je pense, pour que la communication passe auprès des seniors, pour qu'ils s'autorisent et soient légitimes à venir en fait, parce que venir dans un lieu inconnu, c'est aussi pas si simple.
Dans quelques semaines, l'espace Oasis rouvrira ses portes quand le mercure frôlera une nouvelle fois des records. Léon et Paul retrouveront leur espace frais autour de madeleines et de jus de fruits, mais sans restriction drastique des émissions et sans adaptation immédiate. Les populations les plus vulnérables et notamment les personnes âgées paieront le prix le plus lourd. L'Oasis solidaire, ici, dans ce quartier route de Vannes, c'est peut-être ça. Une réponse à hauteur d'homme face à un défi à l'échelle d'une planète.
Voilà à l'instant ce reportage dans cette résidence senior disposant de salles rafraîchies. Pour aller plus loin sur les stratégies possibles afin de protéger les populations les plus vulnérables, Frédéric Frénard et Maximilien Stenderson de Réseauville, Pays de Loire et Bretagne ont mis en place un outil numérique baptisé Adapt Canicule. L'objectif de cet outil est de mieux s'adapter aux problématiques qu'engendrent ces canicules de plus en plus fréquentes dans nos régions. Ils sont au micro de Mathieu Boisse de Radio.
Maximilien Stenderson, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Fénard, bonjour.
Bonjour.
Première question, qu'est-ce qu'Adapt Canicule ?
Adapt Canicule, c'est une solution numérique qu'on a imaginée à partir du souhait en fait de travailler sur une meilleure connaissance des réalités des quartiers populaires face aux canicules. Donc c'est un travail au démarrage exploratoire avec quatre territoires, quatre collectivités, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon, Quimper et Angers, avec l'idée de mobiliser de la donnée à la fois d'exposition aux canicules et de les croiser avec des vulnérabilités socio-économiques à l'échelle des quartiers.
Et donc à qui s'adresse cet outil Adapt Canicule ?
Alors cet outil, on l'a construit pour la base pour les professionnels, pour leur donner des éléments de connaissance sur leur réalité locale. On partait peut-être d'un présupposé ou de sujets peut-être peu connus à l'époque, à savoir que lorsqu'on commençait à travailler sur les enjeux d'adaptation au changement climatique, et en particulier sur les canicules, on avait souvent des retours de professionnels qui nous disaient « Non, nous, sur nos quartiers, on n'a pas trop de soucis par rapport aux canicules, parce qu'ils sont assez bien couverts en végétation. » Bref, on voyait parfois que le sujet n'était pas très bien identifié ou mal appréhendé. Et nous, de par notre connaissance des réalités des quartiers politiques de la ville, on sentait en tout cas que ce sujet méritait d'être creusé et surtout d'être validé d'un point de vue de données et plus scientifique.
Maximilien Stenderson, pourquoi est-il aujourd'hui urgent de s'adapter à vivre dans des villes brûlantes ?
Souvent quand on parle de canicules, de vagues de chaleur, etc., et surtout d'impact sur les populations, on va avoir plutôt en tête soit que dans l'Ouest on est moins concerné, mais en fait, certes, aujourd'hui on est moins concerné, mais dans l'avenir on le sera d'autant plus. Et en fait, il faut plutôt regarder les territoires qu'on considère aujourd'hui comme étant particulièrement exposés, comme peut-être notre futur. Et donc c'est pour ça qu'il faut tout de suite, il n'est pas trop tard encore, de travailler à des stratégies d'adaptation des villes à l'enjeu de canicule. Je pense qu'il y a un certain nombre de villes qui ont déjà pris la mesure de cette problématique-là. Néanmoins, c'est ce que disait Frédéric, c'est qu'il n'y a qu'un aspect, on va dire, de la canicule qui est abordé, c'est-à-dire c'est l'aspect de l'aléa. Donc, c'est-à-dire on va chercher à freiner la chaleur, ce qui est une bonne chose. Mais néanmoins, on va moins prendre en compte l'aspect populationnel dans cette recherche d'adaptation.
Sur le front du climat, Frédéric, les villes et l'État sont-ils engagés de la même façon ?
Au niveau national, il y a des politiques publiques qui sont évidemment construite à cet effet. Au niveau local aussi, ça se matérialise par des plans climat air énergie. Donc oui, en tout cas, les stratégies nationales et au niveau local s'alignent. Et c'est pour ça qu'on a voulu, nous, profiter en fait, de ce travail pour venir y inscrire en fait, une approche populationnelle pour justement intégrer en fait, les inégalités qu'on percevait face à ces situations. Le fait d'habiter dans un quartier populaire, c'est à la fois habiter dans un environnement urbain qui va être assez dense, très urbanisé, dans lequel on va avoir des conditions de logement particulières. On va avoir aussi une forte concentration de population pauvre avec des caractéristiques socio-économiques et sanitaires très fragiles. Les conditions socio-économiques et sanitaires vont exacerber finalement l'exposition à laquelle elles sont face par rapport aux canicules. Et c'est vraiment sur l'angle inégalité sur lequel nous on a voulu jouer pour que lorsque les politiques publiques d'adaptation au changement climatique sont menées, elles intègrent en fait ces spécificités locales. Donc oui, c'est aligné. Par contre, nous, de notre sens, il faut les prioriser au regard en fait d'éléments de contexte ou sociaux, économiques et sanitaires. Quoi, du coup.
Qui sont aujourd'hui les premiers touchés par la canicule ? Qui sont les plus vulnérables aujourd'hui ?
Cette vulnérabilité, elle peut être physiologique, quoi. Une personne âgée, un enfant en bas âge, donc va avoir moins d'aptitude à résister aux fortes chaleurs, et d'autant plus quand on a ce qu'on appelle les nuits tropicales, c'est-à-dire que la température ne descend pas suffisamment la nuit pour que le corps puisse se reposer. Après, il peut y avoir des fragilités sociales, dans le sens où on intègre, par exemple, dans l'étude, le taux de pauvreté. Et on nous a déjà dit, mais quel rapport entre la pauvreté et la chaleur ? C'est vrai que du premier abord, on pourrait se dire, bon, finalement, quel que soit le revenu, on a tous le même impact à la chaleur, sauf qu'effectivement, quand on est une personne qui est plus en précarité, on ne va pas avoir de véhicule, on ne va pas avoir de résidence secondaire, on ne va peut-être pas avoir les moyens de partir en week-end pour aller chercher de la fraîcheur, soit à la mer, etc. Et donc, du coup, on va se retrouver coincé, entre guillemets, dans un espace de vie plus petit. On peut avoir aussi des familles monoparentales qui vont avoir plus de difficultés dans ces contextes-là. Et puis après, toi, tu l'as évoqué, Frédéric, les difficultés liées au logement. Donc, il se trouve que les quartiers politiques de la ville sont sur un critère qui est celui du revenu. Donc, inévitablement, quand on regarde le risque, on voit des vulnérabilités plus fortes dans ces quartiers-là, puisqu'elles y sont concentrées. Néanmoins, il y a aussi des poches de vulnérabilité dans d'autres espaces urbains qui étaient peut-être moins attendus, avec donc des concentrations peut-être moins fortes de populations âgées, de pauvreté, etc., mais à des plus petites échelles et qui échappent finalement à la géographie prioritaire. Donc nous, c'est bien l'intention, c'est de changer le scope et de se dire, en fait, on ne va pas regarder uniquement des cartes de chaleur, on va croiser à ces cartes de chaleur les endroits où on retrouve les populations qui vont être le plus fragilisées et celles qui ont plus besoin d'aide, d'accompagnement ou de solutions à proximité.
Dans votre étude, Maximilien, vous évoquez les lieux ressources, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ces lieux ressources ?
Si on prend l'exemple d'une personne qui est non motorisée, qui n'a pas forcément les moyens de partir lorsqu'il fait chaud, l'idée c'est de se dire à 300 mètres, donc qui correspond à 10 minutes à pied pour une personne à mobilité réduite, quels sont les types de ressources que je vais pouvoir trouver autour de chez moi, rapidement. Dans ces ressources, donc nous, on en a listé 4 grands types. On va avoir des lieux frais extérieurs, donc des espaces où, en soirée notamment, on peut retrouver de la fraîcheur. On va avoir des lieux intérieurs qui sont très probablement climatisé, un centre commercial, un cinéma, etc. On va avoir des équipements publics où on peut avoir de l'information. Et puis, un dernier type de lieu, c'est les lieux de soins. Donc, ça va être tous les lieux de soins qui sont ouverts, entre guillemets, dans lesquels on peut aller un peu n'importe où, quand. Donc, pharmacie, centre de santé, hôpitaux, cliniques, je crois, qu'on a listé dedans.
L'été 2025 a été qualifié de révélateur d'une fracture sociale climatique en Europe, avec des pertes estimées à 43 milliards d'euros pour l'Union européenne. Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe commence à regarder ses quartiers populaires comme un enjeu d'adaptation climatique à part entière aujourd'hui ?
J'ai pas vu de programme spécifique sur les approches sociales autour des enjeux climatiques. Je pense que c'est un sujet qui est encore très émergent en fait en France et en Europe. ça commence à se développer. En tout cas, je peux peut-être juste aussi illustrer par rapport au territoire sur lequel on est. Nous, on travaille par exemple avec le Pacte des Solidarités, qui est une politique publique de lutte contre la pauvreté. Et là, dans les travaux qui sont développés, justement, c'est la dimension adaptation qui a été retenue pour travailler en 2026-2027. Donc en tout cas, on voit que le sujet commence à être intégré. Donc je pense qu'on est vraiment encore au démarrage de quelque chose, quoi, du coup.
En Europe, seulement 19% des ménages ont recours à la climatisation, contre 90% aux États-Unis. La tentation du tout clim grandit, mais est-ce que ce n'est pas aussi un risque d'augmenter les inégalités ?
C'est pour ça que l'action publique, elle est nécessaire, quoi. Parce qu'évidemment, si on attend que les individus mettent en œuvre des actions pour s'adapter chacun de son côté, on va mettre de côté ceux qui sont déjà pas propriétaires de leur logement, donc qui n'ont pas la main finalement sur l'isolation thermique et notamment la protection l'été, et puis d'autres qui n'ont pour beaucoup pas les moyens aussi de se payer tous les dispositifs qui peuvent aider dans ces situations de très forte chaleur. Donc c'est aux politiques publiques de travailler avec les bailleurs sociaux, par exemple, quand il y a des rénovations énergétiques, à bien prendre en compte les performances thermiques face au froid, mais aussi face au chaud. Quand on voit des grandes barres ou des grandes tours qui sont rénovées thermiquement, c'est tout propre, c'est tout beau, mais on va avoir des grandes façades qui vont être exposées plein sud et sur lesquelles, au final, on aurait peut-être juste à créer des ombrières, en fait, pour casser les rayons du soleil qui viennent pas atterrir sur la façade et créer une surchauffe qui se répercute directement à l'intérieur du logement. Donc ça, c'est aussi parce que c'est pas dans notre culture localement qu'on commence tout juste à connaître des épisodes comme là en 2025, vous l'avez dit, qui sont intenses et qui marquent. Donc maintenant, je pense que ça va servir aussi de déclencheur pour vraiment mieux retravailler ces projets-là. Et puis en tout cas, pour moi, l'essentiel, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de travailler à l'enjeu principal avec une multitude de compétences, que ce soit de l'action sociale, de la santé, des transitions, des espaces verts, du bâtiment, etc. etc.
Merci Maximilien Steindorsen et Frédéric Fénard. Je rappelle que vous êtes respectivement chargé de mission et chargé de transition pour l'association Réseauville.
Vous venez d'écouter Déjà Demain, les territoires face au changement climatique.
Une collection de reportages produite par la CorLab et la FRAP avec le soutien de la Fondation de France. Cette série s'inscrit dans le cadre du projet Onde Durable.
Un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir des alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des territoires, groupe Caisse des dépôts.